À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
C'est toi en plus.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Aujourd'hui, on va fêter des anniversaires, les 20 ans de la maison de la Gibauderie et les 110 ans du RICM. Ce seront nos invités du jour. Il y aura aussi bien sûr quelques bons plans sortis et des recommandations musicales. Et on accueille tout de suite notre premier invité, c'est le lieutenant Emmanuel Pierron qui est officier communication au RICM, le régiment d'infanterie chars de marine. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour un anniversaire et aussi des portes ouvertes. C'est les 7 et 8 juin prochains. Alors déjà peut-être pour celles et ceux qui arriveraient à Poitiers, nous resituer un petit peu le RICM, son rôle au sein de l'armée de terre.
Le régiment chars de marine est un régiment d'infanterie chars de marine, est un régiment des troupes de marine, c'est-à-dire que ce sont des troupes à vocation amphibie, donc qui ont plutôt pour rôle le travail de débarquement par mer, donc par voie maritime. Alors évidemment on ne fait pas que ça. On utilise notamment des véhicules blindés, donc le tout nouveau Jaguar qui vient d'arriver dans l'armée de terre, donc qui est un gros véhicule de quasiment 30 tonnes qui remplace des engins qui sont déjà là depuis une bonne quarantaine d'années, et puis les VBL qui sont des véhicules blindés légers, des voitures en quelque sorte, qui permettent une infiltration et des déplacements, rendre les choses très mobiles. Donc le régiment d'infanterie chars de marine, c'est ça. C'est un régiment qui est au sein de la ville de Poitiers depuis 1996. Pareil, qui a une histoire assez longue avec la ville. Et c'est à peu près 700 hommes déployés continuellement sur le territoire national ou à l'étranger.
Donc 700 hommes qui appartiennent à ce régiment. Alors vous organisez des portes ouvertes. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir les portes du régiment cette année? Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas proposé.
C'est ça exactement. Ça fait quasiment 15 ans que ça n'avait pas été fait, depuis 2011. Et puis là, cette année, c'est les 110 ans du régiment. Le régiment a été créé en 1915 au Maroc. Donc là, il est à Poitiers depuis quelques années maintenant et c'était l'occasion de de réouvrir les portes aux gens de la ville et puis de la région pour montrer notre matériel, nos missions, nos traditions, toutes ces choses-là.
Alors donc ces portes ouvertes coïncident avec cet anniversaire. Quelle est l'importance de cet anniversaire pour les régiments et comment ça va se traduire lors de ces portes ouvertes ?
Eh bien, il y aura donc du coup deux journées pleines consacrées à la présentation de nos missions, notre matériel, notre histoire, avec par exemple l'ouverture de notre salle d'honneur, qui est en quelque sorte notre musée, qui restitue toute l'histoire du régiment depuis sa création. Et puis, pendant deux jours, du coup, de nombreuses démonstrations de véhicules, des démonstrations cynophiles, donc avec les maîtres chiens du régiment, des possibilités pour les gens d'embarquer dans les véhicules blindés, donc de les découvrir également. Il y aura aussi cette possibilité pour les plus jeunes parce que c'est un événement qui a vraiment pour but d'être un événement très familial, autant que ce soit le public civil, si je puis dire, que les familles du régiment, etc. Donc avec des jeux aussi à destination des enfants, type tombola, ça c'est tombola pour plus de monde, mais type fléchette, château gonflable, pêche au canard, mais pour les plus grands, parcours commando, tombola, effectivement, et puis après, baptême en véhicule blindé, du tir airsoft, toutes ces choses-là.
Alors, le Jaguar, vous le disiez, ça va être un peu la star de ces journées. Qu'est-ce que ça représente pour un régiment d'accueillir un tel équipement ?
Eh bien, c'est de nombreuses heures de formation pour les pilotes, les tireurs, les chefs de bord, donc les personnes qui dirigent le véhicule. C'est aussi de nombreuses heures de formation et d'entraînement pour les pelotons, donc c'est-à-dire le RICM et les régiments sont cadencés donc avec des pelotons, c'est-à-dire une trentaine de personnes. Et c'est beaucoup d'heures de formation, qui représentent à peu près un an de formation pour être complètement au point. Là, on a déjà à peu près 120 personnes formées et on continue sur l'année 2025-2026 à former le reste du régiment.
Alors vous disiez, c'est deux jours à destination de tout le monde, notamment un programme très familial. Pourquoi cet aspect justement très familial ?
Parce qu'on a beau être un régiment de l'armée de terre, le but c'est de s'ouvrir le plus possible à l'extérieur. que les portes soient ouvertes et que les gens découvrent un peu ce qu'on fait. Parce que malgré tout, on est là pour la population et le but, c'est de faire découvrir ça à un maximum de monde.
Alors, vous organisez une tombola, vous le disiez aussi, c'est au profit des œuvres sociales du RICM. À quoi ça correspond, ces œuvres ?
C'est tout ce qui va être l'aide aux blessés, l'aide aux familles, toutes ces choses-là qui permettent d'apporter un soutien via le régiment.
Et j'imagine que ces portes ouvertes, c'est aussi pour motiver peut-être des réservistes.
Par exemple.
C'est un objectif du régiment aussi de recruter.
Tout à fait, c'est aussi un des objectifs, personnel d'active ou de réserve. Au RICM, on a effectivement un escadron de réserve qui est à peu près composé de 200 personnes. Là, on continue. On a cet été, par exemple, une formation au profit d'une cinquantaine de réservistes qui intégreront donc potentiellement les rangs du RICM par la suite. Mais effectivement aussi pour donner des renseignements à toute personne qui souhaiterait intégrer le RICM ou simplement un régiment de l'armée de terre.
Et le rôle de ces réservistes, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées ?
Le rôle des réservistes, c'est d'apporter un soutien au personnel d'active. Donc, c'est permettre le personnel d'active, quand il est en mission, d'être remplacé et de continuer les missions du régiment.
Et alors, vous avez fait des opérations là récemment, notamment au Liban. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces dernières opérations du régiment ?
Oui, tout à fait. C'était une opération qui a duré 4 mois à peu près. Donc, on s'y est retrouvé dans un moment assez particulier avec le conflit. On était là-bas pendant le cessez-le-feu et notre rôle en tant que nous, régiment, alors on n'avait plus ce rôle de RICM, on était vraiment au profit de l'ONU et notre rôle était d'apporter une aide à la population et puis de constater ce qui se passait au profit de l'ONU pour que l'ONU derrière puisse réaliser sa mission.
C'est vrai que c'était un moment très particulier effectivement pour le Liban. Ce lien avec la ville de Poitiers, vous le disiez depuis 1915.
Comment 1996 dans la ville.
1996 dans la ville. 1915 pour la création.
C'est ça.
Comment ça se traduit avec les habitants, avec la ville ?
Beaucoup d'habitants ont un lien d'une manière ou d'une autre avec le régiment, que ce soit familial, socialement, je veux dire, les amis, etc. Beaucoup de personnes du régiment sont issues de la région ou de la ville. Et puis après, c'est toutes les cérémonies, la majorité des cérémonies qu'on fait se font au sein de la ville, comme 14 juillet, le 8 mai, le 11 novembre, toutes ces choses-là, où on fait nos cérémonies au sein de la ville pour faire participer la population.
Alors c'est ce week-end, donc samedi, dimanche. Peut-être si vous voulez donner des petites infos pratiques pour les personnes qui seraient intéressées pour vous rejoindre dans ces portes ouvertes.
Donc ce sera au 46 bis rue Jean Mermoz, c'est à l'ouest de Poitiers. Les gens parfois confondent avec la 9e Bima. Donc nous on est bien à l'ouest de Poitiers, le régiment, vous ne pouvez pas le louper, il y a toutes les informations sur nos réseaux sociaux. Et dans le coin du régiment, on a mis plein d'affiches pour trouver le chemin sans problème.
Donc c'est de 10h à 18h, l'entrée est bien entendu gratuite et puis il y a plein d'animations, de démonstrations tout au long de la journée.
Exactement.
Merci beaucoup lieutenant Emmanuel Pierron, donc vous êtes officier de communication pour le RICM. Merci d'être venu nous parler du régiment et puis de l'anniversaire et de ces deux journées.
Merci à vous.
7 et 8 juin, merci bien. On continue en musique avec RX et Louisa. Ce titre c'est Tipa Tipa Narive et c'est l'album Cocoon.
Tipa, tipa. puissance de professionnel, je dirais.
Bizarre.
Ça, c'est bizarre.
Les étoiles en plus.
Aurélien Lauter, directeur de la Maison de la Gibauderie, est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour nous parler des 20 ans de cette institution poitevine, la Maison de la Gibauderie. Alors peut-être commencer un petit peu par l'histoire de cette maison, comment elle s'inscrit dans son quartier.
Bah justement, on l'a beaucoup revisité cette histoire là dans la dernière année. Puisque du coup, on se prépare à cet anniversaire depuis septembre dernier. Et du coup, l'histoire de cette maison de quartier, c'est une histoire avant tout de mobilisation d'habitants depuis les années 80 jusqu'à 2005, où du coup, à la fois la ville et le département ont donné leur feu vert pour attribuer un terrain et puis y construire du coup une maison de quartier avec un premier salarié et puis toujours une équipe bénévole encore active aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a eu des moments clés un peu dans ces 20 ans ?
Mmh. Donc on peut citer ça, hein, bien sûr, la construction en 2005 qui a été marquante. Petit à petit aussi, bah, du coup, un projet au départ d'un lieu de rencontre pour les habitants et puis qui se transforme en un projet de territoire financé par la caisse d'allocation familiale avec un agrément pour accueillir du coup des mineurs, puis un agrément centre socioculturel. Donc elle rejoint là à partir de 2012 le giron des 10 maisons de quartier de Poitiers. En 2018, l'extension de la maison de quartier, puisque ça tenait plus dans les murs d'accueillir à la fois les enfants, les parents et les personnes âgées. Moi j'y suis depuis 2018, des années peut-être qui m'ont marqué, c'est l'année du confinement et puis au sortir de cette année-là, un souci grandissant de l'association pour les personnes âgées avec un secteur du coup bien vieillir qui s'est créé, puis un secteur dédié aux jeunes encore mineurs mais voilà de 14 à 18 ans avec un projet renforcé pour eux. Il se passe beaucoup de choses dans les maisons de quartier, c'est jamais évident de ne rien oublier, mais c'est aussi, en tout cas ce qui marque, c'est aussi la continuité, le lien avec les habitants, avec une équipe à la fois bénévole et salariée à l'œuvre dans cette maison de quartier, où je pense la plupart des gens y apprécient aussi sa taille humaine et l'engagement de ses habitants. Au sein de cette maison.
C'est vrai que ça part d'un endroit où on va faire des activités à un projet social au final.
Moi, je suis arrivé en 2018 où la maison avait déjà démarré ce virage social, du coup, de passer d'une maison effectivement du loisir à une maison où, par exemple, on a une travailleuse sociale au sein de l'équipe, où du coup, on met l'accent dans nos actions sur des publics plus en difficulté. On y accueille toujours tout le monde, mais avec un regard, avec une attribution de moyens qui est plus importante sur des publics plus vulnérables.
Et pour l'accueil de loisirs pour les enfants et les adolescents, est-ce qu'il y a un peu des orientations particulières, des activités que vous leur proposez ?
Elles sont un peu transversales, en fait, ces orientations. Elles sont dans notre projet. Hein. C'est à la fois de la citoyenneté, hein, donc du coup, de l'engagement de tous les publics, hein, qu'ils soient jeunes ou adultes, du lien social, donc faire se rencontrer des publics qui, en fonction de leur âge, de leurs origines, de leur niveau de revenu, ne se croiseraient peut-être pas ailleurs. De l'accès aux droits, voilà, aider les plus vulnérables. Et puis, un axe qui est plus récent, mais qui était déjà bien en germe autour de la transition écologique. Donc ça, on va dire que c'est les quatre axes qui sont un peu qu'on va retrouver sur tous nos secteurs d'activité. C'est nos principaux objectifs.
Et pour les personnes âgées, ça aussi, c'est particulier. Vous allez accompagner à la fois au centre, à domicile. C'est un projet important.
Oui, alors en fait, on se rend compte que en vieillissant, en s'isolant parfois, parce que en fonction des différents parcours de vie, des personnes ont plus de difficultés à aller vers nous. Et voilà. Et sur ce secteur-là, c'est, je dirais, le secteur où on a le plus de aller vers, ce qu'on appelle le aller vers dans nos maisons de quartier, c'est-à-dire d'aller à la rencontre, d'aller concrètement. En fait, on organise des porte-à-porte où on va repérer, inviter les personnes. Et si elles ne sont pas encore prêtes pour franchir la porte de la maison de quartier, ben, y a des bénévoles, voilà, j'en parlais tout à l'heure, mais sans eux, on ne ferait pas grand-chose, qui, du coup, rendent des visites à domicile, font ce qu'on appelle des visites de courtoisie, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Voilà. Et puis, quand la personne est prête, eh ben, du coup, elle passe sur du collectif. Mais on a besoin de cet intermédiaire-là. Ouais.
Et au quotidien, c'est combien de salariés, combien de bénévoles dans cette maison ?
Donc on a entre 80 et 90 bénévoles de moyenne chaque année et on a 20 salariés Et on compte aussi le nombre d'équivalents temps plein. Donc on a 14 équivalents temps plein salariés pour 6 équivalents temps plein bénévoles. Donc on reste avec un niveau de bénévolat assez important. Voilà, ça rend.
Et donc la semaine prochaine, le 14 juin, vous célébrez cet anniversaire. Quel est le programme de cette journée ?
Donc c'est notre traditionnelle, je dirais, fête de quartier, hein, comme chaque année, dans chaque quartier de Poitiers. Cette année, elle a une teinte particulière, parce que du coup, on y fête nos 20 ans. Du coup, on l'a désigné un peu comme l'aboutissement de projets qui se sont déroulés tout au long de l'année, avec une fresque qui a été faite sur le parc, avec un spectacle de la Compagnie de la Trace qui s'inspire de paroles d'habitants, avec une exposition qu'on peut voir dès maintenant et encore pour quelques mois dans le hall de la maison de quartier, mais qu'on va transposer à l'extérieur. C'est une exposition souvenir, mais qui va intéresser tout le monde parce qu'on voit des images un peu inédites du quartier dès les années 60, en 2005 à la création, puis maintenant, et puis on a même imaginé le futur grâce à l'intelligence artificielle.
Oui, c'est qu'il y a eu tout un travail d'archives pour retracer ces 20 ans.
Je dirais même du coup de partenariat avec les archives municipales qui ont été vraiment très importants dans ce travail-là. Je n'oublierai pas de les citer parce qu'en fait, il faut savoir que les archives municipales, depuis 2 ans, en fait, ont entamé un travail de collecte de mémoire vivante. On connaît les archives pour leurs papiers, pour leurs photos. Et en fait, ils se mettent à collecter de la parole d'habitants, du coup, ayant vécu sur le quartier. Ils avaient fait l'an dernier le quartier de Poitiers-Sud. Et cette année, quand on leur a parlé de nos 20 ans, ils ont décidé du coup de travailler avec nous. Et ils ont enregistré des témoignages de 15 habitants ayant vécu sur le quartier pour la plupart depuis les années 60. C'est des entretiens qui aujourd'hui sont longs, qui durent 1 à 2 heures, qui sont en écoute, qui vont être bientôt en écoute dans le hall de la maison de quartier, qui sera en écoute le jour de la fête de quartier. Et on a le projet de les transformer en podcast. Pour l'instant, c'est l'entretien complet, mais on y apprend plein de choses. Sur la Giboudrie, c'était principalement des fermes. Il y avait des moutons, il y avait une grande mare à la place du Cèdre sur la route de Pain et Compagnie. Enfin voilà, on découvre plein de choses croustillantes, des petites anecdotes d'une vie complètement différente d'aujourd'hui. Et puis après, la construction, etc. Donc on découvre l'histoire du quartier à travers la parole des habitants.
C'est vrai que les habitants ont vraiment une place et aussi dans l'organisation de cette journée. Ils ont été mobilisés tout au long de la saison, tout au long de l'année.
Oui, on a vraiment un groupe d'habitants mobilisés depuis le début. En fait, on boucle la boucle parce qu'on avait commencé par un questionnaire lors de la dernière fête de quartier où on avait demandé aux habitants comment ils imaginaient la fête, comment ils imaginaient cette célébration et puis s'ils souhaitaient s'impliquer. Donc on avait une quinzaine d'habitants qui étaient partants et c'est avec eux qu'on a construit, cette fête depuis le début. Par exemple... Je parlais d'heures d'enregistrement, on a 7-8 bénévoles qui, du coup, ont pris chacun 2-3 enregistrements, qui sont encore en train de le faire et qui nous en font un petit résumé, ce qui permet aux personnes de, déjà avant d'écouter l'enregistrement, de découvrir un peu ce qu'en est le contenu. Tout ça, on ne pourrait pas le faire avec uniquement l'équipe salariée, quoi.
Il y aura aussi un marché de producteurs qui est prévu. Donc ça, c'était important aussi de les mettre en avant, j'imagine.
Ça fait partie en fait de l'axe transition éco. On essaye tout au long de l'année en fait d'avoir une part croissante de notre consommation du coup sur du circuit court. Et là c'est la ville de Poitiers qui du coup signe une convention chaque année avec la Chambre d'agriculture et bénéficie à ce titre-là de 2 marchés de producteurs. Et donc on s'est positionné, on a été accepté. Et donc on a 15 producteurs locaux qui vont dès 14h jusqu'à 23h, ça c'est les horaires de la fête, 22, 22, 30 quoi, ils vont proposer, comme un grand marché du dimanche aux couronneries, ils vont proposer des produits de toutes sortes. Et on pourra aussi déguster sur place, toute l'après-midi et le soir. Nous on fournit les assiettes, on fournit les frites et la boisson, et ensuite on peut compléter son assiette avec tous ces producteurs locaux. Ouais, c'était un peu ça le sens du projet aussi.
Donc spectacle, il y aura une fanfare et puis ça se termine par un bal.
Oui, alors la fanfare c'est important parce que du coup c'est les chures de mouches, plutôt une fanfare du coup étudiante. Tout au long de la journée, on aura Didier Lafette, du coup, qui est un DJ assez connu pour sa programmation éclectique, mais qui a surtout pour souci de mettre ce qui fait plaisir aux habitants. Donc on a collecté comme ça des chansons que les habitants ont envie d'écouter, voire de danser le soir. Il y aura une ouverture de bal qui va être magnifique, que je vous invite à voir, parce qu'il y aura des surprises à 20h là, pour l'ouverture de bal. Et puis entre 15h30 et 17h, c'est aussi important, on aura du coup les groupes amateurs de la maison de quartier avec de la danse, avec Adja qui mène des ateliers tout au long de l'année à la maison de quartier, avec le théâtre de l'Étincelle, Rodjena, qui va faire une restitution de scénettes avec les adultes, avec le club théâtre en fait de la Gibauderie. Et puis on termine avec Elodie qui est encore une fois une bénévole qui a entamé cette année un atelier chant à la maison de quartier. Donc on a une dizaine de chanteurs qui vont passer aussi sur scène et qui vont nous faire une belle chanson d'anniversaire qu'on reprendra tous en chœur. Et si j'oublie personne, il y a les Folyglottes qui inaugureront la fête à 14h.
Donc de 14h à 23h, dirons-nous. Voilà. C'est la fête donc, à la maison de quartier, la Gibauderie. Une petite dernière question, Aurélien Lothar, peut-être sur l'avenir, puisque quand on fête un anniversaire, on se projette aussi. Mm-hmm. 20 ans derrière nous, quel est l'avenir pour les 20 prochaines années?
Alors l'avenir immédiat, c'est qu'il va y avoir une nouvelle direction, parce que moi je vais quitter la maison de la Gibauderie. Donc sûrement aussi de nouveaux projets, de nouvelles envies qui vont naître autour de ça. Voilà, je dirais qu'on est vraiment sur une continuité un peu de nos actions pour l'instant. Et puis en fait, une maison de quartier, ça s'adapte constamment aux phénomènes de société. Par exemple, récemment, on se questionne beaucoup sur l'intelligence artificielle, sur la liberté d'expression, sur ces choses-là. Donc en fait, tout ce qui fait un peu société, qui interroge les habitants et qui change un peu leur mode de vie, nous on s'y interroge et puis on réfléchit à chaque fois à ce qu'on doit faire en tant que maison de quartier. Donc je dirais que ces sujets-là, de la liberté d'expression, ils nous animent beaucoup, de la transition écologique, comment on peut de plus en plus renforcer les choses. À la rentrée, on aura une belle action avec la ferme Bio 86 qu'on mène en partenariat avec les autres maisons de quartier de Poitiers, où on va tous aller à la ferme récolter et produire des bocaux alimentaires du coup. Et on pense bien à Mathieu parce que du coup il a été récemment vandalisé, donc c'est un partenaire avec lequel on travaille depuis un an, ce chez qui on a déjà mené des actions. Il y a une cagnotte en ligne en ce moment et donc on lui envoie toutes nos pensées aussi. Il faut le soutenir parce que du coup c'est un maraîcher bio qui fait beaucoup de choses par lui-même et là il a été pendant une nuit du mois de mai complètement vandalisé, donc voilà, aussi une pensée pour les producteurs, c'est ça aussi le lien entre les maisons de quartier et puis les producteurs.
Merci pour lui, le message est passé. Donc rendez-vous samedi la semaine prochaine, le 14 juin, toute l'après-midi, pour cette fête de quartier et l'anniversaire de la maison de la Gibauderie. Merci beaucoup Aurélien Lothar d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes le directeur actuel de la maison de la Gibauderie. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Et il est présenté par Isabelle.
Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Poitiers? Eh bien, le festival Écoutez Voir commence. Vous pouvez assister gratuitement à des spectacles variés qui sont proposés par Cap Sud et le Conservatoire de Grand Poitiers. Aujourd'hui, il y a plusieurs activités à découvrir. Tout d'abord, le spectacle Une balle entre nous, qui est une jonglerie burlesque mêlant art du cirque et art de la rue. Ensuite, à 18h30, vous aurez le Big Band Minuscule sur l'esplanade de Cap Sud, qui vous propose un répertoire varié jazz, rock, musique latine et chansons. À 19h, ne manquez pas le rendez-vous des voisins et sa création avec danse et percussions. À 19h30, le spectacle Seul aura lieu. Il porte sur le passage à l'âge adulte et notre rapport au monde et aux autres. Et enfin, à 20h, vous pouvez découvrir le bal d'ici et d'ailleurs où des violons et des percussions vous feront danser. Mais ce n'est pas le seul festival qui a lieu en ce moment à Poitiers. Il y a aussi le festival Local Art, qui a commencé hier et se poursuit jusqu'au 4 juillet. Et donc la maison de quartier Le Local vous accueille avec des expositions, du théâtre, de la musique et de la danse.
Merci beaucoup Isabelle, on te retrouve pour quelques jours dans Espace Matin, donc c'est 8h-9h sur Radio Pulsar, votre émission d'actualité réalisée par et pour les jeunes de Poitiers. Sur Pulsar à 18h, c'est Alasso qui reçoit l'association Aux Arbres Citoyens, à 19h c'est Slam à tout va, de l'impro, de la poésie, du slam, 20h c'est Pétale de Sakura pour un voyage en Asie, 21h c'est Culture Dub, Roots Reggae, Dub, Stepa, Electro Dub avec un album de Youssi à gagner. Et on termine la soirée avec Novorama à 23h. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique de cette émission. On se quitte avec une petite immersion dans le dub puisque c'est prévu donc à 21h ce soir. Xanthu en partenariat avec iClick, ce titre Nayo Nayo, voyage entre dub électro et musique africaine. Bon après-midi en musique, à demain.
Yeah.